Parole de femme. Parole de femme.
Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Parole de femme. Moi, je suis Oumu et il y a quelques années, j'ai créé un blog byoumu.com où je parle de mon immigration au Canada et aussi de mes lectures. En 2020, j'ai eu envie de donner la parole aux femmes. Des femmes qu'on voit peu et qu'on entend peu. À travers ces interviews, vous découvrirez des parcours, des histoires, mais aussi des inspirations différentes. Au Canada, en février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Pour ce mois, j'ai décidé d'interviewer 4 femmes qui nous raconteront leur parcours, mais aussi ce que c'est d'être une femme noire au Canada. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Fumi. Fumi est une jeune femme qui habite à Montréal. Voici son histoire. En écoutant cet épisode, vous bénéficiez de 15% de toute la collection de Six Yards Later, l'entreprise que Fumi a créée. Vous n'avez juste qu'à inscrire HELLO en majuscule HE2LO 15 dans le code promo. Bonjour Fumi.
Oui, bonjour, donc ouais, Fumi.
Merci pour cette interview. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir discuter et m'entretenir avec toi aujourd'hui. Donc, moi, la première question que j'ai pour toi, c'est qui es-tu?
Alors, qui je suis? Une bonne question. En fait, je m'appelle Fumi Layo, mais on me connaît plutôt sous le nom de Fumi. Je suis française d'origine nigériane. Née en France et ça fait 15 ans que j'ai déposé mes valises à Montréal.
Quand est-ce que tu as immigré à Montréal?
Montréal.
15 ans,
ouais. Oui. Ouais, la date exacte, c'est le 29 décembre 2005.
Pourquoi as-tu décidé de t'installer à Montréal?
Ok, en fait, ça s'est décidé en fait en 2005. C'est sur un coup de tête, c'était pas du tout prévu dans mon programme. Le Canada, ça me parlait pas en fait, j'y pensais pas du tout. Et je passais mon BAFA en externe en fait, sur Paris. Et j'ai rencontré en fait quelqu'un, on discutait un peu de ce qu'on allait faire après. Il me parlait du collège La Salle qui se trouvait en fait à Montréal parce que je lui avais dit ah, ben, j'ai envie de faire mes études de mode. Donc il m'a fait la pub du collège La Salle comme jamais et c'est resté dans ma tête en fin de journée. J'ai été sur Google, j'ai tapé Collège La Salle, j'ai vu le site internet et j'ai filé dans la cuisine. J'ai dit à mes sœurs, je m'en vais au Canada. Elles ont ri, puis c'est juste resté comme ça. Et c'est vraiment en avril que j'ai commencé les démarches. En fait, c'est seulement en juillet 2005 que j'ai reçu la réponse que j'étais admise. Et du coup, bah, tout était passé très, très vite. Et en décembre, j'étais partie.
En décembre?
Ouais.
Arrive à Montréal en plein hiver. Comment s'est passé ton arrivée à Montréal?
Alors, pas du tout comme je pensais. En fait, je m'attendais pas à grand chose, mais j'ai une cousine qui habitait ici, qui m'avait dit, on peut, pour quelques mois, tu peux rester avec moi, tout ça. Du coup, elle devait venir me chercher à l'aéroport. Dernière minute, elle a annulé. Et puis, elle annule, elle me dit qu'elle me réfère à une de ses amies qui doit venir me chercher. Donc, je ne connais pas son amie, je n'ai jamais vu. Et j'arrive donc à Trudeau, à l'aéroport, et il n'y a personne.
Qu'est-ce que tu fais après?
Alors, il n'y a personne. Je pense que toutes les filles noires que j'ai vues, en fait, j'ai été leur demander, excuse-moi, est-ce que tu t'appelles? En fait, son amie s'appelait, son prénom commence par un S. Donc, j'ai été voir toutes les filles noires que je voyais. Puis, je leur demandais, excuse-moi, est-ce que tu t'appelles S? Excuse-moi. Puis, tout le monde était comme, non. Tout le monde nous regardait comme si tu étais folle. Et après ça, je me suis dit, OK. Au bout de 5 personnes, j'ai abandonné. J'ai été acheter une carte téléphonique. Et j'ai été appeler ma tante.
OK.
Et voilà comment commence ma belle aventure canadienne.
Donc Fumi, je t'accueille dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Donc au Canada, c'est au mois de février. Donc dans le podcast Parole de femmes, j'ai décidé d'inviter quatre femmes noires pour qu'elles puissent parler de leur parcours, de leur expérience. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que le mois de l'histoire des Noirs représente pour toi?
Alors, je dirais que c'est, moi, je pense que de la visibilité. C'est la visibilité, c'est vraiment mettre en lumière, en fait, ce qui se fait dans la communauté noire, mais en même temps, parce qu'il y a toujours un mais, en même temps, pour moi, je considère que l'histoire des Noirs, c'est 365 jours. Donc, c'est sûr, on utilise ce mois-là pour mettre l'accent, célébrer. Mais je pense que c'est ce que j'essaye de faire aussi avec Six Years Later. C'est vraiment de célébrer au maximum, en fait, la culture noire, afro-caribéenne. Fait que c'est un mois qu'on arrête pour pouvoir mettre l'accent. Mais je trouve que c'est 28 ou 29 jours, dépendamment de l'année. Puis après ça, pouf! C'est comme si ça avait disparu, quoi, comme si ça n'avait pas existé. Puis on reprend l'année, voilà, c'est une parenthèse, disons. J'ai l'impression que c'est une parenthèse, même si on fait des belles choses. Et justement, on utilise beaucoup ce mois pour mettre en avant et se dire, OK, c'est le moment de faire connaître, de faire découvrir. Je trouve que pour la communauté noire, on travaille beaucoup dessus, en fait. C'est assez super important. Et c'est bon pour nous aussi, parce que ça nous permet aussi de nous connecter entre nous. Mais j'ai l'impression que... Pour le reste, un peu, ça s'essouffle très vite après.
Donc, Fumi, c'est quoi être une femme noire au Québec?
C'est particulier.
Comment ça?
Honnêtement, c'est particulier parce que si je me base sur mon historique, ce que j'ai vécu avec mes premières années sur le marché du travail, même à mon pire ennemi, je ne le souhaite pas.
C'est-à-dire?
Ça veut dire que tu es diplômé, tu as le niveau, tu as tout, et on va te mettre en fait à un poste. On ne veut pas te mettre en poste en fait où c'est toi qui vas représenter en fait l'entreprise. Fait que du coup, on va te mettre des personnes qui sont sous-qualifiées. Et on va te les mettre en fait à un poste plus haut que toi. Et tu dois en plus les former et tout leur montrer. Mais tu n'auras jamais le salaire qui va avec. Tu n'auras pas les primes qui vont avec. Mais on te dit, tu devrais déjà t'estimer heureux que on t'est engagé. Fait que tu fais ça une fois, deux fois, parce que bon, il faut bien que tu payes tes factures, tout ça et tout. Mais à un moment donné, après, tu te rends compte que la petite qui est là, qui n'a pas étudié, qui n'a pas le diplôme, elle touche le salaire que toi, normalement, tu es censé toucher. Et que ils sont bien contents quand tu fais leur chiffre d'affaires et que tu fais monter leur chiffre d'affaires et donc leur commission à eux, mais toi, tu n'obtiens pas les tiennes. Fait qu'à un moment donné, voilà, c'est un peu ça quand je parle d'utiliser, dans le fond, les femmes noires, des fois, comme bouche-trou, en fait. Parce que les compétences, on les a. Et je trouve dommage qu'en fait, on soit obligé de se battre pour pouvoir obtenir un poste et de devoir être sous-payé souvent juste parce qu'on ne veut pas nous laisser. Comme on dit, tu ne représentes pas la boîte, en fait. Fait que, voilà. Fait que tu te lèves le matin, tu fais ce que tu as à faire, tu ne touches pas ton salaire que tu as envie de toucher. Et voilà, moi, à un moment donné, je me suis dit, ras-le-bol. Fait que j'ai donné ma démission.
Ok. Et ça t'est arrivé plusieurs fois dans ton expérience au Québec?
Honnêtement, honnêtement, deux fois. Mais ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est c'est qu'on m'ait mis en plus avec des Françaises.
C'est-à-dire
qu'on m'ait mis. Qu'on ait engagé en fait des Françaises blanches qui n'avaient pas les qualifications. Mais puisque leur visage avait l'air de coller en fait à ce qu'il fallait, donc en fait, je me retrouvais à devoir les former. Et au final, ça t'énerve. Ça te prend tellement en fait, ça t'énerve tellement parce que tu te dis que la personne n'a pas les compétences qu'elle se permet de se pavaner, de prendre le salaire qu'elle n'est pas censée prendre, et que en plus de ça, on se mange, tu sais, on a en plus on a droit aussi à des remarques totalement racistes et mal placées vraiment. Donc ouais, je pense qu'à un moment donné, faut savoir remettre les choses à leur place, et c'est assez particulier en fait.
Ok. Donc tu trouves ça difficile d'être une femme noire au Québec?
Ouais, moi je dirais que c'est difficile. Je dirais que c'est difficile. Si, en tout cas, moi, toutes les autres femmes noires que je connais, qu'elles soient nées ici ou qu'elles soient nées ailleurs, c'est un point commun qu'on reconnaît, c'est que pourquoi est-ce qu'on a besoin de lutter autant pour obtenir quelque chose qui devrait nous revenir normalement facilement, quoi?
Ok, merci.
Et c'était comment l'école? Est-ce qu'il y avait des personnes qui te ressemblaient dans ton école?
Savoir que j'étais en fait la... En tout cas, je connaissais pas d'autres étudiants français noirs. En tout cas, France. Ouais. Donc, du coup, puis j'ai quand même eu... T'as des commentaires, tu vois, t'es à l'école avec d'autres Français aussi, mais t'es qui ont des commentaires qui se demandent comment toi, une fille noire qui vient de banlieue, comment t'as atterri ici, quoi, en fait.
Ouais, bah justement, pourquoi en fait pas pourquoi, mais est-ce que tu fais une différence? Et si oui, après, ben, faudra que tu m'expliques pourquoi entre un Français blanc qui immigre au Canada et un Français noir qui émigre au Canada. Est-ce que pour toi, il y a une différence par rapport à...
Moi, je ne dirais pas que je fais une différence, mais je ressens la différence. Je ressens la différence. Par exemple, ici, quand je suis arrivée, ce que j'ai trouvé très marrant, c'est qu'on réécrive mon histoire.
C'est-à-dire...
Ça veut dire que ce que je rencontrais, en fait, donc je leur disais, me demandaient d'où est-ce que je venais. Je leur disais donc que j'étais française, mais c'était comme, non, mais t'es française, mais... Non, pas vraiment. Donc là, c'était comme si, je suis française. Je devais toujours préciser, je suis née à Paris même, tu sais, la capitale, donc je suis française. Mais on me disait, ah, mais en fait, tu es africaine, puis après, tu as été en France, puis de la France, tu es venue ici. Non, je suis juste née en France, puis de la France, je suis venue ici. Mais ça paraissait comme trop gros pour certains, même pour beaucoup.
Donc à chaque
Et.
fois, tu peux justifier.
Ouais, me justifier, mais en même temps, je te dirais, en France, on justifie aussi, hein, t'sais, on te fait un peu comprendre que tu n'es pas vraiment chez toi, puis ici, c'est un peu la même chose. Donc, on te réécrit l'histoire. Fait que finalement, je me suis vite rendu compte que quand tu es noir, en fait, on va partir sur le principe que soit tu es africain, soit tu es haïtien. Mais tu ne peux pas être né comme en France. Voilà, pour les gens, je ne suis pas française. Et encore aujourd'hui, je me rappelle, il y avait un temps où j'avais d'autres collègues françaises aussi, et on s'adressait à elles en tant que françaises, mais moi, on ne considérait pas comme étant française.
Mais
J'ai toujours trouvé ça drôle.
on s'adressait à toi comment?
Non, en fait, je veux dire, comme par exemple, au moment où il faut parler, tu sais, quand il se passait des événements en France ou autre. On venait les voir, puis on disait, ah, mais t'as vu ce qui se passe en France quand même et tout. Puis, ah, mais oui, mais vous voulez français. Mais moi, on m'a jamais dit, vous les Français, on ne me considère pas comme étant française.
Ah, c'est marrant.
Moi, je sais qu'en tout cas, encore aujourd'hui, du monde qui me connaît depuis longtemps, avec qui je travaille, vont encore me dire, quand je dis que je rentre, que je pars en vacances, tu t'en vas en Afrique? Non. Je rentre en France. Je vais voir ma famille en France. Ah, ta famille en France? Oui. C'est vraiment comme toujours le petit. Mais en fait, moi personnellement, j'ai pas de. Ça me dérange pas. À partir du moment où je sais qui je suis et d'où je viens, ça me dérange pas. Mais tu sais, il y a des remarques aussi d'autres Français blancs. Parce que comme je te dis, des Français noirs, j'en connais pas en fait ici. Donc, d'autres Français blancs qui vont me dire comme ouais, mais ton accent, tu sais, on va souvent me dire que eux ont un accent parisien, puis que moi, j'ai un autre accent. Donc, je ne sais pas quel est l'autre accent que j'ai, mais ouais, il semblerait que ça soit... On n'ait pas le même accent, puis je pense que oui, on n'a pas le même accent, quoi qu'il en soit, donc...
Oui, mais ça, c'est toute personne, chaque personne a un accent.
Exactement.
Que... Peu importe que tu sois noir ou blanc, peu importe, c'est... Tu peux avoir deux personnes qui vivent en France, à Paris, qui ne vont pas parler de la même façon parce qu'ils n'ont pas... Parce que leurs parents ne vont pas parler de la même façon, donc ils n'auront pas les mêmes intonations.
Donc, c'est ça. C'est ça. Bah, tout comme j'ai souvent entendu que moi, bah, je n'ai pas l'accent parisien. J'ai plutôt un accent banlieusard. Moi, je souris quand j'entends ça parce que je me dis comme... OK, mais en même temps, c'est leur oreille. C'est tout comme ici, on va me dire que j'ai un accent parce que oui, effectivement, j'ai un accent. Quand je les entendais, pour moi, ils avaient un accent. Donc, c'est sûr que j'ai un accent français, puis ils ont un accent québécois. Fait que on a chacun notre oreille.
Ouais. On va parler de ton entreprise. Donc, moi, je t'ai contactée à travers Instagram. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce que tu fais?
OK. Bah oui, c'est ça. En fait, du coup, j'ai créé en fait mon entreprise. Donc, c'est la marque Six Yard Leather. En fait, c'est une entreprise de vêtements, accessoires pour hommes, femmes, enfants et aussi une partie de décoration intérieure. Dans le fond, c'est parti. Moi, j'ai une connexion particulière avec l'hiver. Donc, je suis arrivée en hiver. Je pense que j'ai une connexion particulière. En 2013, le projet est né. En fait, c'était vraiment... j'étais fatiguée de l'hiver. J'étais tannée. J'en avais marre. J'étais comme encore un hiver. J'étais fatiguée. Et j'avais besoin de couleurs. C'est sûr que j'ai toujours des pannes ou du wax avec moi. Puis du coup, je me suis mise à faire des coussins.
OK.
Et ça, voilà, autour de moi, ça a commencé à plaire. Et du coup, j'ai continué en fait à créer d'autres accessoires. Donc, c'est ça. C'est vraiment... Puis le nom de la marque aussi... je suis une wax addict, hein, vraiment, moi, tissu, wax, pine, c'est depuis que je suis enfant, j'ai baigné dedans. Donc, du coup, le nom vient aussi de là. C'est vraiment, j'utilise que des six yards qui sont environ 5 mètres et quelques. Mm-hmm. Et tout part de là, en fait. Je crée tout à partir de ces pagnes-là.
OK. Donc, ta clientèle se situe essentiellement au Canada?
Pas que. Non, États-Unis aussi, donc Canada, États-Unis et quand même pas beaucoup en France aussi.
Comment c'était 2020 pour toi?
Ben pour moi, 2020, ça a été... en fait, je l'ai vu comme un miroir à mon année 2006.
OK.
Où, dans le fond, tu n'as pas tes repères et tu reprends et tu recommences un peu tout, quoi.
OK.
Fait que, ouais, ça a été l'année de l'apprentissage de nouvelles choses. Puis aussi, surtout, de me rendre compte que, il n'y a rien d'acquis. Puis, il n'y a vraiment rien d'acquis. Et, ouais. Puis aussi, de me rendre compte encore une fois que quand on vit à l'étranger, la famille, le poids de ne pas voir la famille souvent, puis là, avec les frontières fermées et tout ça. Donc, 2020, ça a été assez mouvementé, mais ça m'a permis aussi de créer autrement.
Et comment ça a été 2020 pour ton entreprise?
Ça a été particulier parce qu'en fait, j'ai sorti de site internet, la boutique en ligne et de site internet. Si on m'avait dit en début d'année qu'on aurait cette année-là, peut-être que je ne l'aurais pas fait, mais en même temps, fallait le faire parce que maintenant, on doit être en ligne, en fait. Mm-hmm. Fait que ça a été au mois de juin, j'ai dû reculer. Au mois de juin, j'ai fini par lancer la boutique en ligne. Particulier, une année particulière. Mais on apprend beaucoup. On apprend beaucoup.
Ouais. Après la mort de George Floyd, est-ce que tu as remarqué, parce que la presse et les entreprises, tout le monde a fait des communiqués disant qu'ils soutenaient les personnes noires qui vivaient au Canada, Comment toi, est-ce que tu t'es sentie par rapport à ça? Est-ce que déjà, bah, tu sentais que tu étais noire au Canada? Bah, est-ce que tu peux me dire un petit peu par rapport à ça, comment tu t'es sentie par rapport à tout ça?
Ouais, c'est particulier. Je dirais que j'ai évolué dans un domaine, ne serait-ce que le domaine professionnel dans lequel j'évolue. Je me rends compte que oui, je suis noire. Puis qu'on va tendre à me le répéter, ça tend à être répété souvent. Après, c'est vrai que toute la lumière qui a été mise sur les entreprises, les valoriser, les mettre en avant, moi, j'ai eu un petit problème avec ça parce que je me suis dit, il faut qu'il arrive un événement comme ça pour qu'on légitime, en fait, nos entreprises et notre travail. Et c'est sûr que là, c'est comme... Oui, on va gagner en visibilité, mais pour combien de temps? Est-ce qu'on veut vraiment connaître le produit? Est-ce qu'on veut connaître l'histoire de la marque? Est-ce que voilà, est-ce qu'on ne se sert pas juste de cet événement-là pour dire on est là, on soutient, mais histoire d'eux, quoi. Juste le temps que ça se tasse, puis une fois que ça sera passé, ben, on reviendra à ce qui est normal, sauf que la normalité, non, ça reste la même chose. Quand tu es noir... T'es une proie, en fait, à plein de choses.
Est-ce que tu as été mise en avant? Est-ce que tu t'es sentie valorisée? Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait plus de personnes qui venaient visiter ta page? Ou...
Ouais, je pense que si. C'est sûr que voilà, il y a du monde qui y a du monde qui taguait, donc il y a du monde qui pouvait comme mettre en avant, mais ce que je veux dire, moi, en tout cas, en ce qui concerne la marque, Six Yard Letter, elle est basée sur le fait de mettre en avant et de raconter des histoires, de raconter l'histoire et de faire découvrir, en fait, une culture. Fait que je pense que, rendu là, moi, mon boulot, il était fait et je continue de le faire. Peu importe les événements, c'est le travail à faire. Après, est-ce qu'il y a eu plus d'engouement? Je ne pourrais pas dire qu'il y a eu plus d'engouement. Okay. Parce qu'on a déjà, en fait, je veux dire, ça fait quand même déjà pas mal d'années qu'on a un engouement autour du tissu wax. Donc, je pense pas que George Floyd et les événements qui ont suivi son décès aient eu un impact forcément important sur l'entreprise.
Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont changé depuis le décès de George Floyd?
J'irais peut-être, il y a peut-être au niveau de la conscience en fait, de se rendre compte que on va consommer des marques qui en fait n'ont fait aucune déclaration par rapport à tous les événements. Donc oui, je pense qu'il y a peut-être eu une conscience par rapport à ça, mais c'est pas forcément tout le monde qui va porter attention à ça en fait. Mais voilà, ça a été rattrapé aussi de manière très marketing pour pouvoir se dire on va gagner peut-être aussi des nouveaux clients noirs avec nos marques. Mais je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup, c'est assez instrumentalisé. Et il faut juste porter attention à ça en fait. Mm-hmm. Faut juste porter attention à ça. Je veux dire, ce qui s'est passé là, ce n'est pas nouveau. C'est des choses qui arrivent malheureusement et heureusement. C'est filmé maintenant. Fait que le fait que ça soit filmé, peut-être que ça apporte en fait comme une preuve, mais c'est dommage qu'on doive en arriver là en fait. Mm-hmm. Ce qu'on vit en tant que personne noire, je pense que c'est difficile de pouvoir l'expliquer parce que quand on l'explique, on va être comme minimisé en nous disant oui, mais non, faut pas généraliser. Mais c'est parce que quand on le vit, c'est quelque chose qu'on vit.
Mais est-ce que tu peux décrire qu'est-ce que tu vis, par exemple, en tant que femme noire? Des exemples? Ouais.
Ouais, sur le marché du travail, j'ai longtemps... Franchement, sur le marché du travail, j'ai longtemps entendu, vécu. Je veux dire... Moi, j'appelle ça des petites phrases assassines, mais c'est vraiment comme de...
Oui, j'appelle ça le racisme ordinaire.
Ouais, tu sais, c'est comme. On veut te rappeler qu'en fait, tu devrais t'estimer heureuse de d'avoir obtenu le poste ou d'être là, mais tu dis, mais en fait, non. Si je suis là, c'est parce que je suis à ma place, je suis là, j'ai étudié. C'est... Et ouais, je pense que c'est. Moi, je peux pas. Je mentirais si je dis que depuis que je me suis installée en 15 ans, je n'ai pas connu le racisme. Je mentirais. Il est
Ouais.
présent, il est là. On a beau vouloir le taire et faire comme s'il n'existe pas, le racisme systémique, il est présent.
Ouais. Quel changement t'aimerais qu'il se fasse pour que ça n'existe plus?
Vu comme ça, honnêtement, franchement, là, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'on arrête de prendre en fait la population noire comme un bouche-trou.
C'est-à-dire.
Un bouche-trou. Pour aller plus particulièrement, je pars surtout au niveau du marché du travail. On bosse dur et peut-être 3 ou 4, 5, 6 fois, même 10 fois plus dur que les autres pour obtenir nos diplômes.
Oui.
Et j'ai l'impression que qu'une fois qu'on arrête sur le marché du travail, c'est comme nous faire une fleur en fait. Ah ben ok, on te fait rentrer dans l'équipe, mais tu te rends vite compte que en fait ton travail, on dirait qu'il sera jamais valorisé à sa juste valeur. Et aussi le fait de on n'appelle pas juste une personne pour combler un trou, en fait. Si tu ne la prends pas pour ses compétences au premier abord quand elle passe une entrevue, pourquoi la rappeler pour le même poste, pour combler le poste? Parce que ben, on a besoin vite, vite, là, il nous faut quelqu'un. Si tu n'as pas fait confiance à la personne la première fois et tu n'as pas confiance en ses compétences une première fois, pourquoi l'appeler pour boucher un trou, en fait?
Oui, je comprends.
Est-ce qu'on peut avoir notre place, la place qu'on mérite? Là où on est, où on doit être, et puis juste être reconnu en fait.
Quels sont tes projets, tes ambitions pour 2021? C'est un peu difficile de parler de projets, etc., quand on voit la crise
Ouais.
sanitaire qu'on traverse actuellement. Mais.
Ouais. En fait, je dirais que je ne me projette plus, en fait. Jamais été une personne avec à me faire des nouvelles résolutions, tout ça et tout. Je ne me projette plus. 2019, on l'a jeté comme une malpropre, en disant bye bye, t'étais nul. Et
Vivement 2020.
2020, à 2020 nous a vraiment comme donné une belle claque. Et je pense que bah, il faut prendre la leçon. En 2021, on est là, on a encore envie. L'objectif, c'est rester en vie. Et en vie, en santé, et continuer de pouvoir développer au maximum la marque et espérer pouvoir revoir ma famille prochainement.
Merci Fumi, merci beaucoup pour cette interview. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Oui, donc en fait, dans le fond, je suis en fait, vous pouvez me trouver sur Instagram, donc sur le compte Six Yards Letter. Facebook, c'est Création Six Yards Letter. Et puis, sinon, il y a le site internet qui est sixyardsletter.com.
Ok, ben merci beaucoup.
Merci à toi.
C'est ainsi que se termine mon interview avec Fumi. J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes et à m'écrire si vous le souhaitez. À très vite, les amis!